Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Academy. C'est un train iconique qui symbolise la réussite industrielle française et évoque pour beaucoup les voyages professionnels ou les grands départs en vacances. Le TGV effectuait ses premiers essais au mois de mars 1972. Depuis, ce nouveau réseau ferroviaire n'a cessé de se développer. Il a même transformé la carte de France, déjà dotée de riches réseaux de transport. Nous allons en parler avec un géographe, Francis Beaucir, professeur émérite à l'Université Panthéon-Sorbonne et président du comité scientifique Rail et Histoire. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pour parler de la géographie du TGV, nous allons revenir aux origines du réseau ferré français qui s'est développé au 19e siècle et qui s'est développé avec une forte volonté politique. Ce réseau n'a pas été dessiné au hasard. En réalité, il s'agit de décisions législatives même.
Oui, au départ, ce sont des considérations de type politique et militaire, qui préside au premier schéma national. Parce qu'avant même ce schéma national, il y a eu des initiatives locales, par-ci, par-là, pour finalement exploiter l'invention technologique du chemin de fer. Mais c'est vrai que l'étoile ferroviaire, dont on parle souvent, qui diverge à partir de Paris, elle a pour but de rejoindre de grandes villes frontières, des ports également. C'est donc cette étoile qui reste aujourd'hui quand même la structure du réseau ferré national. Et puis, au cours du 19e siècle, ensuite, on va compléter ce réseau par des transversales, par tout un réseau capillaire aussi, qui va être prolongé par un réseau de la plupart du temps de chemin de fer à voie métrique, moins cher à installer, en particulier avec un coût d'infrastructure moins cher. Et ce réseau-là...
À voie métrique, ça
signifie... Alors, c'est la voie de 1 mètre de large, alors que la voie normale, c'est 1 mètre 40 et quelques. Bon. Donc, en fait, ce sont des petits trains, on appelait ça souvent les chemins de fer départementaux. Alors, à un moment donné, du 19e siècle, deux tiers du 19e siècle, on a pratiquement une gare toutes les deux ou trois communes de ce pays. On sait qu'on est à pas loin de 40 000 communes. Il y a pratiquement une gare ou un point d'arrêt, une halte, toutes les deux ou trois communes, en associant le réseau national, donc les grandes compagnies à l'époque, plus évidemment ces chemins de fer départementaux. Donc c'est le moyen de se déplacer rapidement, parce qu'auparavant, c'est pratiquement sur les routes de poste et sur tous les mauvais chemins. Alors les ponts et chaussées ont quand même beaucoup, beaucoup travaillé avant le chemin de fer pour faire un réseau routier disponible. Alors là, il faut revenir quand même sur cette idée de la vitesse. Dans ce territoire français, il y a des villes et il y a beaucoup d'espace entre les grandes villes. Et ça va être une des principales motivations, finalement, pour construire de la vitesse. Donc le réseau routier qui anticipe le réseau ferroviaire, c'est aussi un réseau d'augmentation des vitesses et du confort aussi, qui permet de transporter des charges plus lourdes et plus rapidement. Ça, c'est un point extrêmement important, mais du coup, on peut remonter encore un peu plus en arrière, c'est le département. La Révolution française, quand elle conçoit le schéma géographique du département, elle dit le département, c'est la préfecture en une journée de cheval. C'est donc bien un problème de vitesse et de durée qui conditionne l'organisation du territoire, là, y compris politique.
Il y a d'ailleurs une citation de Fernand Braudel qui dit « La révolution fera l'unité administrative du territoire. Elle ne réglera pas pour autant ses difficultés de transport. Ce que l'Ancien Régime, puis 1789, l'Empire, la Restauration et la Monarchie de Juillet n'ont pu réaliser, le chemin de fer va l'accomplir, comme de lui-même, au-delà des années 1840. »
Oui, absolument. Et donc, le chemin de fer, c'est un rétrécissement considérable de la carte de géographie. Si au lieu de représenter des kilomètres, on représente des minutes ou des heures. D'ailleurs, dans ce même ouvrage de Braudel, il y a une carte de la France avant le chemin de fer et après le chemin de fer, où on voit une France toute petite logée à l'intérieur de la grande France d'avant le chemin de fer. Donc, en fait, c'est une réduction du territoire. C'est vraiment une question de vitesse qui est derrière. Et tous les pays européens n'ont pas eu cette même culture de la vitesse. Je pense que ce qu'on peut dire, il y a une culture de la vitesse dans le chemin de fer français.
Dès le 19e siècle.
Et alors, évidemment, moi, je devais avoir quelque chose comme 5 ans quand il y a ce fameux record du monde de vitesse dans les Landes avec cette fameuse BB 9004 et sa cousine, la CC 7107, plus de 300 km/h de vitesse. Donc, le record du monde de vitesse, c'est quelque chose qui est important dans la culture, dans la culture des ingénieurs, finalement, du chemin de fer en France. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces records du monde de vitesse, le TGV a lui aussi son record de vitesse, mais dès le milieu des années 50, ça n'a pas l'effet TGV, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un succès industriel, technologique, et un gros succès, vraiment. Mais en même temps, ça n'a pas de répercussions fondamentales sur les dessertes. Donc, c'est ça la différence avec le TGV, qui est pas seulement des lignes nouvelles avec du matériel nouveau, mais un principe de desserte. Mais on va sûrement y revenir.
Alors, pour en rester encore au 19e siècle, parce que c'est tout à fait passionnant, le train joue un rôle économique important, notamment dans l'intégration des campagnes au marché commun.
Oui, tout à fait. Alors, et au marché tout court, au marché de la ville. C'est-à-dire que les jours de marché, il y a plus de trains que les jours sans marché. On parle du marché forain, hein, où on vend de l'alimentation, on vend des bestiaux, des choses comme ça. Donc petit à petit, effectivement, le chemin de fer est un unificateur. Mais la phrase de Brodel est tout à fait... C'est la meilleure. C'est écrit en très peu de mots et ça résume vraiment tout le processus. Donc on a un réseau capillaire qui s'ajoute à l'armature nationale. Et c'est pour ça qu'on est passé de l'étoile ferroviaire dite de Legrand à une autre expression qui est la toile d'araignée, de l'étoile à la toile. Donc à la fin du 19e siècle, le réseau ferroviaire français, c'est une toile d'araignée qui finalement permet de desservir toutes les sous-préfectures. Et puis toutes les petites villes qui sont situées sur les tracés des lignes. Donc c'est le seul moyen de transport qui permette de faire un aller-retour à la ville proche dans la journée.
On comprend qu'il y a un maillage extrêmement fin du territoire, mais est-ce que cependant certaines villes ont tardé plus que d'autres à accueillir le train et est-ce que cela a eu un impact économique sur leur développement? Est-ce que la hiérarchie entre les villes a été rebattue par les choix de lignes ferroviaires?
Oui, alors c'est tout à fait clair. Votre question me fait penser soudainement à un article de Jacqueline Beaujeu-Garnier, donc grande géographe de la Sorbonne aussi, qui parle de Alençon et Le Mans. Et Le Mans est une bourgade, en fait. Et Alençon est une ville qui a une fonction politique. Et Alençon n'est pas très intéressé par le chemin de fer. Je pense qu'il y a de la concurrence avec les transports routiers, tout un tas de choses comme ça. On a vu d'autres villes, comme Tours-Orléans, qui étaient plutôt réticente. Et puis d'autres villes qui, au contraire, accueillent le chemin de fer. Dans la revue d'histoire des chemins de fer publiée par l'association Rail Histoire, il y a un article sur la ville de Marly-le-Roi, en banlieue parisienne, qui a passé des décennies... Alors, les conseils municipaux successifs ont passé plusieurs décennies pour avoir une gare. Donc on voit bien que... Et ça, c'est un point important qu'on pourra retrouver pour le TGV. L'initiative locale est extrêmement importante pour valoriser l'arrivée du chemin de fer. Alors, c'est vrai qu'on a des collectivités qui ont redouté le chemin de fer et d'autres qui l'ont accueilli à bras ouverts, voire attiré. Et donc, c'est ça, l'inversion de population entre Le Mans et Alençon, dont je viens de parler, qui est retracée par Jacqueline Beaujeu-Garnier, montre bien qu'avec le chemin de fer, c'est Le Mans qui devient la ville principale du département et qui plus est d'ailleurs une grande ville ferroviaire, hein, puisque c'est une étoile ferroviaire importante.
Alors, vous parlez d'un plan en étoile et puis d'une toile d'araignée. Cela signifie qu'à chaque fois, il y a un cœur. Et ce cœur, c'est Paris. Là, nous sommes dans une spécificité française, peut-être?
Alors, le cœur, c'est Paris, oui. Tout simplement parce que c'est le siège du pouvoir politique et c'est la suite de l'étoile de Legrand. Mais les routes de poste, depuis l'époque de Colbert, a rayonné aussi à partir de Paris. C'est sur le parvis de Notre-Dame qu'on a le kilomètre zéro. Donc, toutes ces routes nationales de 1 à je ne sais plus combien, à 12 ou 13, en faisant le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Enfin, tout ça, ça veut dire quand même le réseau est d'abord une affaire politique. Voilà. C'est une construction politique et le chemin de fer va doubler ce réseau. Mais c'est vrai que quand on parle de Paris comme centre, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres centres secondaires qui apparaissent. C'est-à-dire beaucoup de villes de France sont aussi à la tête d'une véritable étoile ferroviaire.
Par exemple
Alors, par exemple, Lyon, par exemple, beaucoup de villes, mais c'est Lyon, c'est évidemment, c'est toutes les grandes villes, toutes aujourd'hui, les métropoles régionales sont toutes des étoiles ferroviaires. Mais parfois, c'est plus petit. Et ça veut dire qu'il y a toute une échelle, de l'échelle nationale jusqu'à l'échelle départementale, voire infra-départementale, on retrouve ces petits centres. Chaque fois qu'il y a des bifurcations, on a des gares. Dans le Massif central, on a de tout petits bourgs qui sont devenus des cités ferroviaires parce que c'était des points de correspondance. Je pense à Saintes, par exemple. La ville de Saintes a une étoile à 5 branches. Voilà. Et c'est une petite ville. Voilà. Donc, en fait, des grandes métropoles, de Paris, les grandes métropoles jusqu'aux petites villes, chaque fois, on retrouve ce schéma un peu fractal d'une certaine façon. Hein. Et donc, c'est très important. Ces nœuds, ces nœuds sont des centres urbains qui, pendant tout le 19e siècle et toute une partie du 20e siècle, ont une dynamique démographique et économique plus importante que d'autres.
Alors, nous parlons du réseau, mais il y a aussi tout le patrimoine bâti, tous les ouvrages d'art qui accompagnent le développement de ces lignes, un développement qui est assez rapide, qui se fait en 5 décennies à peu près. C'est le paysage français dans son ensemble qui est transformé avec un nouvel élément qui apparaît, la gare.
Oui, tout à fait. Mais il y a la gare, alors il y a le château d'eau. Enfin, il y a tout un tas d'éléments que les gens qui jouent au train électrique reproduisent de façon délicieuse sur leur réseau. Hein. Il y a des fabricants de modèles réduits. Alors, il y a le château d'eau, il y a le parc pour distribuer le charbon, par exemple, pour les locomotives, la remise à machine. Et puis, évidemment, il y a la gare et ses quais. Mais il y a aussi le passage à niveau. Et je pense que c'est très difficile encore aujourd'hui de faire 50 km sur une petite route en France sans avoir croisé 3 ou 4 passages à niveau, la plupart du temps customisés, comme on dit, oui, transformés par des propriétaires puisque ces bâtiments ne sont plus ferroviaires. Donc en fait, la France est criblée finalement de bâtiments ferroviaires. Hein. On pourrait dire que pour presque une commune sur deux dans ce pays, on a évidemment la mairie, l'église et la gare. Et la gare légèrement en retrait, puisqu'elle était construite la plupart du temps en lisière de l'urbanisation de l'époque. Donc voilà, la gare, l'église, la mairie, c'est peut-être le schéma des petits bourgs, des petites villes, petits bourgs aussi et gros villages de France.
Et pour un géographe, c'est aussi important de regarder le plan d'une commune. Où se trouve la gare dans le plan d'une commune à cette époque pour le 19e ?
Alors, au 19e siècle, je pense qu'il y a eu un grand sujet pour les ingénieurs. Faut-il passer par les vallées? Faut-il passer par les plateaux? Bon, c'est assez caricatural de dire des choses comme ça. Mais si je repense, par exemple, à tous les projets de lignes entre Paris et Strasbourg, plateau-vallée. Alors, vallée, c'est plus long parce que les vallées sont sinueuses avec les méandres. Le plateau, c'est direct, mais il va falloir franchir des creux et des bosses, donc des tunnels et des viaducs. Donc pour les ouvrages d'art, effectivement, le chemin de fer, c'est aussi un formidable développement de l'ingénierie en matière d'ouvrages d'art. On a bien sûr dans l'imagination, dans l'imaginaire même, les grands viaducs du Massif central, le viaduc des Fades, le viaduc de Garabit et beaucoup d'autres. Mais qu'est-ce qui va l'emporter la plupart du temps? C'est la capacité des machines à franchir des rampes. Voilà, donc en fait, on n'a pas la puissance de l'électricité aujourd'hui pour franchir ces rampes. Et ce qui fait que passer par les vallées, ça présente un autre intérêt. C'est la plupart du temps, ce sont les vallées qui ont conduit au développement de chapelets, de villes et de bourgs qui sont en relation les unes avec les autres. Donc si on veut desservir une population et une économie, il est préférable de passer par les vallées. Et on voit bien que cette question sur Paris-Lyon, par exemple, on va reprendre toute une série de petites vallées. Donc on reprend depuis Paris à l'envers, si je puis dire, en remontant vers la source, le réseau fluvial, le réseau hydrographique. Et puis on arrive au seuil de partage des eaux, c'est le tunnel de Blaisy, hein, qui ensuite permet à la ligne de basculer dans le bassin de la Saône avec Dijon puis Lyon. Donc entre la géographie physique en quelque sorte et le chemin de fer, il y a aussi quelque chose qui tient d'une... C'est plus que de la complicité en fait, c'est presque la même chose. Le chemin de fer épouse le relief de la France, jusqu'au moment où on peut s'en affranchir. Et c'est comme ça que le TGV réussit à faire Paris-Lyon avec 100 km de moins que la ligne historique, parce qu'il passe à travers le Morvan, avec effectivement des rampes relativement importantes que l'électricité permet d'avaler.
En géographie urbaine, les premières gares semblent plutôt choisir le centre-ville que des quartiers périphériques.
Alors, pas vraiment. C'est le centre-ville de l'époque, non, mais ça devient du centre-ville après un siècle d'urbanisation. Les gares parisiennes sont installées en limite de la partie dense et historique de Paris. Et évidemment, le 19e siècle, c'est aussi un moment de développement urbain très important. Donc souvent, ces gares sont limitrophes de la partie centrale des villes. Et elles utilisent évidemment des terrains qui sont des terrains agricoles la plupart du temps, ou tout simplement des terrains de faubourg à faible densité, voire des zones militaires, lorsqu'il y avait encore des zones militaires pour protéger la partie centrale des villes. Et alors évidemment, le chemin de fer est englouti en quelque sorte par le développement urbain, et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on pénètre, il y a pas mal de textes qui racontent comment le chemin de fer entre dans la ville, en passant par les faubourgs, en passant par la banlieue populaire la plupart du temps, et comment d'un seul coup il arrive majestueusement dans une gare qui est une grande architecture et qui lui donne le contact direct avec le cœur de la ville. Voilà. Mais ça, c'est une situation qui est liée à l'évolution urbaine.
En France, il y a un âge d'or du train qui se situe à peu près avant la Première Guerre mondiale et ensuite une sorte de rétractation du réseau. Comment l'expliquer ?
Alors, tout simplement parce que l'automobile et le camion vont prendre la suite. Alors, ils ne prennent pas la suite dans un désert de route. Pendant ce temps-là, la puissance publique va quand même considérablement améliorer le réseau routier. Réseau routier, puis autoroutier. Donc en fait, pour beaucoup de déplacements individuels, finalement, le train n'est plus nécessaire. On peut aller plus vite que par le train. Et là où il reste parfaitement pertinent, c'est dans la relation entre des grandes villes relativement distantes les unes des autres. Alors c'est aussi pour ça qu'à la SNCF, on a... Alors là, on était évidemment bien plus tard, une politique pour tenter d'accélérer les relations. Donc, on n'est pas tellement en France adepte du cadencement, c'est-à-dire un train toutes les heures ou toutes les demi-heures, contrairement à des pays beaucoup plus denses, tout simplement parce que nous, le problème, c'est d'aller le plus vite possible dans une grande ville qui est assez loin. Et je repense soudainement, là, d'un coup, au fameux ce train, le Capitole. Le Capitole qui a été un train intéressant pour les augmentations de vitesse commerciale entre les villes. Donc, cette question de vitesse, on revient sur ce sujet, c'est dans la continuité de l'histoire du chemin de fer, puis de la SNCF, c'est relier rapidement des villes qui sont assez éloignées les unes des autres et qui traversent de quasi-déserts humains, parce qu'il y a eu tout l'exode rural qui est venu par là-dessus. Alors, l'exode rural, c'est aussi une baisse de densité de population. Et la baisse de densité de population, ça veut dire que les flux individuels l'emportent quand même sur des flux collectifs. Je pense qu'il y a toute cette histoire-là qui permet de comprendre la rétraction du réseau.
Cette réflexion sur la vitesse et ses investissements nécessaires, à partir de quand réapparaît-elle en France ? Est-ce que les années d'entre-deux-guerres, elle a été un peu laissée de côté au profit de l'automobile ? Ou est-ce qu'on a attendu les années d'après-guerre ?
Alors là, il faut rentrer très précisément dans l'histoire des machines, parce que ce sont les machines qui tirent les trains. Moi, je dirais que non, les grandes compagnies ferroviaires puis la SNCF n'ont jamais abandonné l'histoire de la performance en matière de vitesse. Voilà. Aussi bien pour des machines à vapeur que pour les machines électriques. Et alors, il y a la vitesse des engins et il y a aussi la vitesse commerciale, qui est évidemment le débouché de la vitesse des engins. Quand on pense à la prise d'eau en ligne à pleine vitesse pour des locomotives à vapeur. Les locomotives à vapeur ont toujours soif. Donc tous les X kilomètres, 30, 40, 100 kilomètres, 200 kilomètres, il va falloir de toute façon remettre de l'eau dans le tender. J'ai le souvenir que sur Paris-Rouen et Le Havre, on a de la prise d'eau en ligne, c'est-à-dire qu'on invente un caniveau alimenté en eau au milieu des deux rails et la locomotive a un godet qui va lui permettre de laper l'eau du caniveau, si je puis dire, tout en roulant, tout simplement pour éviter un arrêt assez long dans une gare, probablement Rouen, dans laquelle il va falloir remettre de l'eau dans le tender et à ce moment-là, effectivement, ou soit changer de machine. Bon. Donc on voit très bien qu'en permanence, il y a des petites améliorations qui se font sur la signalisation aussi, hein, pour permettre effectivement plus de trains de passer, c'est-à-dire moins d'attente aussi. Voilà, je pense que tout ça, franchement, je dirais que non, jamais les ingénieurs du chemin de fer n'ont abandonné cette idée de vitesse.
Et les politiques, peut-être que le train n'était plus leur priorité.
Alors, du point de vue politique, c'est probable. C'est probable. Malgré tout, ça fait partie des grands réseaux structurants. C'est un élément constituant, finalement, du système socio-économique tel qu'on ne peut pas totalement abandonner le chemin de fer. Mais à un moment donné, effectivement, il a fallu, en parallèle d'un réseau autoroutier qui se développait, il a fallu probablement dire, voilà, le train peut-il changer de génération, si je puis dire. Et puis, il y avait les vols intérieurs. Les vols intérieurs, donc, de Air France, pour l'essentiel. Cette question qui surgit, elle surgit aussi parce qu'on a des avancées technologiques. Avant le TGV électrique, on a le train à turbine à gaz qui est expérimental. Donc, c'est la technologie de l'avion qu'on essaye de faire venir. Et puis, il y a l'aérotrain. L'aérotrain, c'est aussi une sorte de technologie de l'avion. Du coussin d'air, certes, mais on est propulsé par un réacteur d'avion. Bon, il y a tout ça. Et à un moment donné, effectivement, ce qui va s'imposer, c'est un chemin de fer compatible avec le réseau historique hérité. Et je pense que c'est ça, en quelque sorte, la clé du succès du TGV, c'est qu'il roule sur sa ligne nouvelle. Et quand il quitte sa ligne nouvelle, il continue de rouler. Et c'est bien la raison pour laquelle il dessert des grappes de villes qui bénéficient en quelque sorte de rentes de situation. Elles se trouvent opportunément placées sur la carte de la géographie du réseau pour bénéficier de l'effet TGV. C'est exactement ce qui se passe pour toutes les petites villes des Alpes, les stations touristiques des Alpes. Le TGV quitte la ligne à grande vitesse à Mâcon ou à Lyon et on va desservir Bourg-en-Bresse, certes, mais aussi Annecy, Aix-les-Bains, etc. Et c'est pareil pour le sud, c'est pareil pour l'ouest. Qu'un TGV s'arrête à Plouaret de Trégor, bon, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais j'imagine que oui, Plouaret de Trégor, entre Saint-Brieuc, si je me souviens bien, et Brest, Plouaret de Trégor ne pouvait pas imaginer un seul instant que finalement la grande vitesse permettrait d'accéder assez rapidement à Paris. Pas tellement plus vite à Saint-Brieuc et pas plus vite non plus à Brest, mais à Paris. Donc voilà, c'est ça que j'appelle les rentes de situation pour des villes qui sont opportunément situées sur le prolongement des lignes à grande vitesse. Et donc c'est ça le passage de cette idée permanente de la vitesse ferroviaire à une exploitation et une desserte. Voilà. Et quand les lignes de TGV commencent à apparaître, c'est Paris-Lyon. Ben, on a un peu Paris-Lyon, on a un peu Paris-Lille, on va s'en aller un peu vers l'ouest, on a trois lignes. Là, la carte de France, alors on reprend l'idée de Brodel qui fait rétrécir sa France, on va dire, la carte de France se chiffonne.
Alors qu'est-ce que vous voulez dire par là, une carte de France chiffonnée?
Alors écoutez, c'est très simple. Quand on essaye de représenter les réductions de durée de déplacement entre des villes, si on part de Paris, c'est facile. On va dire... 1 cm égale quelques minutes. Alors, je fais ma carte. Là où il y a des lignes, je vais avoir des segments plus courts. Et là où il n'y a pas de ligne, le segment, il reste ce qu'il était, il est plus long. Donc, ça veut dire que j'ai une France qui va se rétrécir s'il y a une ligne TGV et pas s'il n'y en a pas. Mais le fait que petit à petit, on ait des transversales qui apparaissent complique complètement la chose. Alors, la carte chiffonnée, c'est une carte qui représente pas seulement la distance entre Paris et, par exemple, Bordeaux, Toulouse, Montpellier ou Lyon, elle représente aussi les distances temps entre Montpellier et Toulouse. Pendant que le TGV réduit la distance quelque part, ailleurs, c'est pas réduit. Et donc, ça chiffonne la carte comme si on prenait une feuille de papier et qu'on se mettait à la chiffonner. Et on la chiffonne avec un centre qui est évidemment Paris. Et puis petit à petit, au fur et à mesure qu'on construit de nouvelles lignes et qu'on autorise par des raccordements ou tout simplement des parcours de TGV sur un peu de LGV, un peu de ligne classique, puis à nouveau un peu de LGV, on arrive à faire des relations transversales et petit à petit, la carte se déchiffonne. La carte se réaplatit un petit peu et finalement, avec Paris-Bordeaux maintenant, on a une carte, il nous reste Limoges et Clermont-Ferrand, qui sont finalement un petit peu qui sont restés finalement en dehors du réseau. Même Toulouse maintenant est atteint par le TGV. Bon, puis encore quelques projets. Mais alors voilà, au fur et à mesure que le réseau, il aura fallu une grosse génération pour redéchiffonner la carte. Voilà. Donc, on a une on pourrait imaginer, on pourrait dessiner d'ailleurs, ça s'appelle des cartes par anamorphose. Voilà. Y a des laboratoires de géographie qui font des cartes par anamorphose régulièrement. On pourrait très bien, effectivement, au fur et à mesure que les lignes apparaissent, la SNCF pourrait commander, si ce n'est déjà fait d'ailleurs, une collection de cartes par anamorphose entre 1980 et puis aujourd'hui. Je sais pas, tous les 10 ans, mettons, au fur et à mesure qu'on invente des dessertes, parce qu'on crée des lignes et on invente des dessertes. Donc, chiffonnage, puis déchiffonnage, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, on retrouve un petit peu la carte de Brodel, mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit.
Alors, ce développement s'est fait de façon progressive, un chantier après l'autre. On comprend bien l'importance de Paris-Lyon, mais pourquoi est-ce que l'Ouest a été jugé prioritaire ?
Alors ça, c'est une autre aventure ferroviaire. L'Hexagone, dans l'Hexagone, il y a un truc qui ne rentre pas dans l'Hexagone, c'est la Bretagne. Il aura fallu, y compris dans la tarification du fret, inventer un tarif spécial pour tous les produits agricoles de Bretagne sur le marché parisien. Donc ça nous amène à des années en arrière. Donc l'idée quand même de la DATAR à l'époque, hein, l'aménagement du territoire, c'est quand même quelque chose qui a joué un grand rôle sur l'aménagement. Alors Paris-Lyon, parce que c'est une ligne très 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 fréquentée qui arrive à saturation. De toute façon, il faut faire des travaux. Donc c'est là qu'on dit c'est la priorité. Ensuite, c'est l'Ouest, tout simplement parce qu'il faut équilibrer les dessertes. Et puis ensuite, on va retrouver l'étoile de Legrand, si on veut, hein, avec Strasbourg, Lille, Bordeaux. Mais c'est cette idée d'équilibrer l'Est et l'Ouest avec une France plutôt agricole, avec de belles grosses villes plutôt du tertiaire. Et puis de l'autre côté, la France industrielle, il faut vraiment équilibrer. Et ça, c'est le travail de la DATAR.
Il y a aussi ces nouvelles gares qui apparaissent complètement détachées des villes, parfois en pleine campagne. On peut penser à Avignon-TGV, on peut penser à Belfort-Montbéliard, par exemple. Oui. C'est un nouveau modèle, presque plus proche de l'aéroport que de la gare.
Oui, tout à fait. Mais on a lu dans la presse au début du TGV que c'était un train sans les ailes. C'est-à-dire qu'en fait, ça allait très, très vite. Quand on est à l'intérieur de ces voitures de Patrick, le surnom du premier TGV orange, là, bon, c'est comme si on était dans une cabine d'avion. Y a vraiment cette idée que c'est la vitesse de l'avion sur les courtes distances qui est appliquée au chemin de fer. Donc, on a ces gares qui sont en lisière de ville, tout simplement parce qu'on va à la gare en voiture. On va à la gare en voiture et donc on a tout un bassin de clientèle possible avec le centre de la ville, mais aussi tous les environs de la ville. Évidemment, en termes de réseau, ça pose quand même quelques problèmes. Il y a eu des batailles, en particulier la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, la FNOT, s'est toujours battue contre cette idée des gares dites des betteraves. Alors la gare des betteraves, c'était la gare de Picardie, entre Amiens et Saint-Quentin, à 40 km d'Amiens, à 40 km de Saint-Quentin, qui était desservi par un autocar. Il n'y avait pas de connexion avec le réseau historique et ça a été le principal point de critique de ces gares périphériques où on manquait la correspondance avec un réseau régional, le réseau TER d'aujourd'hui. Alors, dans certaines des gares dites périphériques aujourd'hui, on a cette connexion. C'est plutôt raté pour tout le début. Quand on pense à la gare de Mâcon, on a la gare de Mâcon-Locher, on a la gare de ville de Mâcon. Entre Mâcon-Locher et Mâcon, pendant très longtemps, la question, ça a été de savoir qui allait payer la navette qui permettait de la gare de Mâcon-Locher d'aller en ville et peut-être même d'aller à la gare de Mâconville pour prendre un TER d'aujourd'hui ou un omnibus d'autrefois. Alors, est-ce que c'était le réseau urbain qui devait le faire ? Est-ce que c'était la SNCF qui devait le payer ? Est-ce que c'était le département avec les cars départementaux ? Il y a eu toute une histoire, tout simplement, sur le financement d'une ligne routière pour relier les deux gares. Voilà la raison pour laquelle, effectivement, ces gares périphériques ont soulevé quand même beaucoup de critiques. Et alors, souvent, on citait l'exemple de l'Allemagne, où on n'a pas ces gares périphériques, on a un double débranchement. C'est-à-dire que le train quitte la ligne nouvelle, vient dans la gare historique de la ville, puis retrouve la ligne nouvelle ultérieurement. Évidemment, ça fait perdre du temps. Donc ça a un impact sur la durée de parcours de point d'origine au point de destination du train.
Et il y a un autre sujet qui a été ouvert par le TGV, c'est celui de ne plus habiter forcément dans un certain rayon proche de son lieu de travail. On peut avoir quelqu'un qui habite au Mans et qui travaille à Paris. Et cette tendance peut-être est en train de s'accroître avec le développement du télétravail.
Alors, télétravail plus TGV, effectivement, c'est une redistribution possible. Pour l'instant, on en voit quelques éléments, mais statistiquement, c'est encore relativement limité. Alors, c'est un phénomène qui existe depuis un certain temps, mais il touchait des marginaux. D'abord, il faut le type de métier qui va avec. Tout le monde ne peut pas faire comme ça. Mais dans cette affaire, si on repart du département, une journée à cheval. Maintenant, on va dire, c'est le rythme de la journée. Voilà. On peut très bien aller dans une très grande ville pour des besoins d'emploi ou tout simplement d'achat ou de consultation médicale dans la journée. C'était dans une très grande ville, c'est-à-dire les métropoles. Voilà. Je pense que l'univers de la journée, il est rendu possible par le TGV. C'est le cas pour le travail. C'est peut-être pas la peine d'avoir un découché. On peut très bien partir le matin, rentrer le soir et avoir une journée de travail, par exemple à Lyon, quand on habite à Paris, ou tout simplement quand on est à Bordeaux. On peut venir passer une journée. Dans un certain nombre de travaux que j'ai fait récemment du côté de La Rochelle, je peux faire un aller-retour à La Rochelle et avoir une journée de travail à La Rochelle en venant de Paris. Voilà, donc l'univers de la journée, le budget temps finalement sur la journée, ça c'est quand même quelque chose que permet le TGV. Pour certaines catégories de population. Alors, si on ajoute par là-dessus le télétravail, à ce moment-là, ça peut devenir un mode de vie, un mode d'organisation, non plus de la journée, mais de la semaine. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. Alors, ça donne aussi une chance à des amoindrissements de la pression foncière. C'est-à-dire qu'en fait, on peut habiter dans des villes où le prix du mètre carré est moins élevé. Donc ça, c'est aussi la renaissance d'un certain nombre de villes. Voilà, donc on est en train de voir tous les effets territoriaux. Hein. Ça passe par le prix.
Le prix de l'immobilier notamment, qui augmente de façon plus importante dans les villes dotées d'un TGV.
Alors, il augmente de façon plus importante, mais pour les gens qui habitent dans les très très grandes villes, c'est un prix qui est très inférieur. Par exemple, le prix parisien n'est jamais atteint nulle part ailleurs. Voilà, donc je pense que c'est une redistribution géographique qui est possible et qui va avec d'autres critères, hein, par exemple la qualité de la vie dans des villes moyennes. Bon, et simplement, ces villes ne sont pas isolées.
Avec la juxtaposition dans une même ville de populations différentes qui n'ont pas nécessairement les mêmes moyens et peut-être de tensions parfois.
Alors ça, c'est clair. Alors, on a vu ça à Bordeaux en particulier récemment parce qu'il y a cette nouvelle ligne avec cette liaison très, très rapide entre Bordeaux et Paris, où effectivement, les prix de l'immobilier montent. Et évidemment, d'un point de vue politique, ça pose un problème pour des populations locales qui déclarent ne plus pouvoir trouver à se loger au prix de l'immobilier d'avant. Voilà. Alors, il y a cet effet-là, bien sûr, mais c'est aussi un effet de redistribution. C'est-à-dire qu'en fait, si on pense la chose en termes d'aménagement du territoire, ce qui peut être tout à fait contradictoire avec le point de vue personnel, les intérêts personnels des ménages. Hein. En termes d'aménagement du territoire, ça donne une chance à la métropolisation, une métropolisation plus équilibrée que plutôt ce fameux Paris et le désert français. Le chemin de fer, il a aussi un impact urbanistique. Il a été le déclencheur de la renaissance du quartier de gare, ou du quartier de la gare, comme on voudra. En le réinjectant en quelque sorte dans la dynamique urbaine, alors que souvent ces quartiers étaient des quartiers un peu désolés. Les débords de la gare donnaient lieu à des franges urbaines finalement pas très attractives. Donc l'arrivée du TGV dans une gare, c'est la renaissance de la gare, souvent sa réhabilitation en termes de bâtiments, mais également tout le quartier qui va avec. Et c'est là que certaines villes ont saisi cette opportunité offerte finalement par le chemin de fer pour faire rentrer dans la ville, dans la dynamique de la ville, des quartiers qui étaient un peu périphériques ou un peu isolés.
C'est un effet TGV. Vous avez donc quelques exemples en tête peut-être ?
Dans presque toutes les villes. C'est le cas à Bordeaux, par exemple, hein, où tous les abords de la gare se transforment. C'était le cas à Tours également. Mais je pourrais dire que c'est le cas dans toutes les villes qui sont touchées par le TGV.
Alors, Francis Beaussière, vous qui êtes géographe, pour vous, quels sont les défis aujourd'hui du réseau ferré français ?
Probablement pas des défis industriels, parce qu'on sait à peu près tout faire. Il y a le problème du coût. Il y a le problème du coût. C'est un réseau qui est onéreux. Et tant que toutes les externalités négatives des transports ne seront pas internalisées, alors le chemin de fer sera en difficulté. Du point de vue politique, parce qu'il coûte cher. Alors, qu'est-ce que c'est que les externalités négatives ? Par exemple, c'est les émissions de CO2, c'est le bruit, c'est la consommation de matières rares ou de choses comme ça. L'avion en particulier, voilà, est pas bon du tout, mais comme ces externalités ne sont pas prises en considération dans le coût de production du service, hein, elles sont réparties sur l'ensemble de la société. Donc, internaliser les coûts externes, la plupart du temps des coûts négatifs environnementaux, ça donne finalement au chemin de fer un avantage. Aujourd'hui, le chemin de fer n'a pas cet avantage parce que ce n'est pas la façon de calculer le prix que ça coûte. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un problème ancien. C'est un problème ancien depuis qu'on fait du développement durable et auparavant de l'écologie urbaine. Internaliser les externalités négatives, notamment environnementale, reste quand même une façon, je dirais, d'avenir, de penser le coût. Alors, la deuxième question, c'est les densités de population. Ce n'est pas un problème de chemin de fer, c'est un problème de répartition de la population et de répartition des attractions urbaines au sein du territoire. Lorsque les densités sont trop faibles, le chemin de fer, effectivement, n'est probablement pas la bonne réponse. Donc, la réhabilitation dont on parle beaucoup, on en parle beaucoup. Je ne sais pas si on le fait vraiment, mais on en parle beaucoup. Des petites lignes. J'ai envie de dire toutes les petites lignes qui amènent du trafic aux grandes lignes. Les petites lignes commencent avec presque personne et finissent toutes avec beaucoup de monde dans les villes. Donc tout ça, c'est quelque chose qui a été un petit peu laissé de côté au profit de la voiture individuelle. Et je pense que là, il y a un vrai retournement des choses qui va se produire dans la génération qui vient. Donc voilà, le défi du chemin de fer aujourd'hui, c'est effectivement de bien s'adapter au rythme de la population, de ne pas négliger tout le patrimoine, c'est-à-dire de conserver le réseau quand il existe encore, en se disant « ça peut toujours servir », on va dire ça comme ça, et d'éviter finalement de brader un réseau qui est aujourd'hui inusité ou faiblement usité, en se disant « on est en train d'aborder une transition aussi. Alors, elle n'est pas seulement écologique, elle n'est pas seulement énergétique, elle est aussi un peu culturelle, d'une certaine façon. Et là, le chemin de fer, il est avec un patrimoine dormant, extrêmement important. Le défi, effectivement, c'est de ne pas laisser filer ce patrimoine dormant, parce que c'est évidemment la solution la plus facile pour faire des économies.
D'autant, et ce sera votre conclusion, que les Français sont très attachés à leur chemin de fer. Vous êtes actuellement en train de travailler sur ce sujet.
Le programme de travail qu'on a au sein de Rail et Histoire consiste à essayer de cerner cette question de l'attachement populaire au chemin de fer. De la part de gens qui n'ont pas d'attache ferroviaire particulière par leur métier, par leur profession, et qui finalement sont attachés au chemin de fer. Le chemin de fer fait partie du... C'est pas seulement du patrimoine ferroviaire, ça fait partie du patrimoine de la nation, d'une façon générale. Et il y a beaucoup de gens qui font vivre, d'une certaine façon, par 1000 manifestations différentes, qui font vivre, finalement, la mémoire du chemin de fer, sans relation, finalement, avec son utilisation. Les gens qui font ça ne sont pas forcément des gens qui prennent le train. Alors, il y a ceux qui reproduisent des maquettes, il y a les gens qui conservent du matériel, il y a des associations de préservation du matériel ferroviaire, beaucoup d'associations locales qui peuvent se mobiliser pour entretenir une petite gare désaffectée, parce que c'est la gare qui va devenir un bâtiment public, mais il faut lui conserver la physionomie de la gare. Donc, dans toute cette France rurale aussi, ces traces sont nombreuses. Alors voilà, donc c'est du patrimoine de la nation. Ça a accompagné aussi toute une génération, plusieurs générations. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a cet attachement. Alors, avec ce travail de recherche, on essaye de remonter aux raisons de l'attachement en partant des manifestations de l'attachement. Voilà. Donc, lorsqu'on a un petit musée ferroviaire dans une petite ville avec quelques personnes, même pas des cheminots, qui ont conservé du matériel, des signaux, tout un tas de choses, et qui font visiter ce musée, on va dire, oui, là, il y a un attachement. Quelle est la raison qui a conduit ces gens à s'attacher à ces manifestations concrètes, matérielles du chemin de fer? Voilà, c'est un petit peu ça, le travail qu'on a engagé. Alors, c'est un travail assez difficile. Il faut remonter aux motivations. Quelles sont les motivations des gens qui passent du temps dans leur vie à s'intéresser au chemin de fer, le chemin de fer d'hier, mais aussi le chemin de fer d'aujourd'hui? Et puis, alors, on a des cheminots aussi. Quand on va sur Internet maintenant, on voit qu'il y a des blogs de cheminots qui racontent leur vie de cheminot. On a des revues également qui parlent à la fois de l'histoire, mais aussi de la façon de faire vivre l'histoire. Une anecdote. Je vais à Aix-en-Provence pour travailler. Et mon billet de train pour mon TGV à Gare de Lyon ne me permet pas de trouver de place parce qu'il y a un défaut dans le billet. Je m'adresse au contrôleur. Alors, le contrôleur, il a une casquette de contrôleur. Il a les cheveux qui dépassent un peu. On voit bien une sorte de bourguignon. Bon. Le contrôleur me dit, tiens, celle-là, c'est la première fois qu'on me l'a fait. Il me dit, mettez-vous dans la voiture bar. Je vais revenir, je vous trouve une place. Je me mets dans la voiture bar et je suis devant le cinémascope. Parce que dans la voiture bar, on est installé face au paysage. Et ça fait vraiment comme du cinémascope. Et moi, j'aime bien ça. Hein, le prof de géographie se dit, moi, je me fais un transect géographique, Paris-Aix-en-Provence, à 300 km/h ou à peu près. Bon. Il revient, le contrôleur. Et je lui dis, finalement, je vais rester là, regarder, je suis au cinéma. Et il me dit, je finis mon contrôle et je reviens. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il revient, il me dit, venez avec moi. Il m'emmène dans sa cabane. Il y a une petite cabane pour le contrôleur dans les voitures. Il sort son ordinateur et il me dit, je fais des photos de paysages. Dès que j'ai fini mon contrôle dans le train, je fais des photos de paysages traversées par la ligne. Et il me montre une partie de son diaporama. Je lui dis, oh, comment c'est formidable. Ben, je lui dis, vous devriez proposer tout simplement cette idée aux éditions La Vie du Rail. Qui a édité ce document? Ce cheminot-là, c'est quoi pour lui l'attachement au chemin de fer? Lui, il est attaché au territoire vu par le chemin de fer. Et c'est encore une autre façon. On voit que c'est un domaine extrêmement riche et c'est ça que j'aimerais, avec toute une équipe, qu'on essaye d'explorer. C'est une mosaïque, en fait, que cet attachement populaire au chemin de fer.
Eh bien, un grand merci, Francis Beaucir, de nous avoir raconté cette histoire géographique des réseaux ferrés en France. Nous fêtons donc cette année les 50 ans des premiers essais du TGV. Merci et à bientôt.